Et donc, c'est La vie est un roman. On est mardi matin et maintenant nous avons le droit à un formidable petit flash info. Toutes les nouvelles condensées en 3 minutes. Mais la vraie émission commence maintenant sur Aligre FM 93.1. Je suis avec Alexandre Devaux.
Bonjour.
Bonjour. Qui, donc, comme le dit la Bible, il est un temps pour chaque chose, un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix, un temps pour semer et un temps pour moissonner, et qui est là en pleine moisson, qui est très présent en ce moment sur la scène parisienne, car il est le commissaire d'exposition d'une grande exposition de Topor à la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France, et il a écrit un formidable article dans à propos de l'exposition qui a lieu à la Maison Rouge, qui s'appelle Contre-culture 1969-1989, l'esprit français. Et il a écrit un article dont nous allons parler maintenant, donc à Maison Rouge. L'exposition à Maison Rouge, c'est une exposition générationnelle, puisqu'elle dit 69-89. C'est donc une génération qui encadre, qui est avant le punk et après le punk. Les années Palace pour la deuxième partie, le post-68 pour la première partie, donc toutes les années 70 avec l'essai très mis en avant. Un certain nombre d'évolutions dans la société française. Et bon, ce que moi je retiens en gros sur l'exposition, c'est que c'est une exposition sur les gens qui faisaient de la provocation à l'époque, sur un certain nombre de thématiques. On peut parler de gens comme Copie, on peut parler de Clovis Trouille, on peut parler de Coste, on peut parler de Michel Journiac. C'est des approches différentes, mais qui se recoupent. Et l'article d'Alexandre Devaux parle, lui, de Bazooka. Je vais vous donner le titre exact de son article, qui est « Bazooka, l'art terroriste ». Et donc voilà, en gros, si vous voulez, c'est une exposition sur Topor, par exemple, qui est à l'entrée de l'exposition, donc un esprit harakiri, enfin tout ce qui dérangeait un petit peu, tout ce qui allait contre le ronron dominant. Qu'est-ce que tu vois comme grand chapitre sur l'exposition Maison Rouge que j'aurais oublié ?
Bah, la Maison Rouge, oui, ce qui est assez sympathique, c'est que c'est une exposition qui est à la fois érudite et grand public. C'est-à-dire qu'il y a autant de références très populaires que de références plus pointues, plus élitistes, on va dire. Et donc ça commence avec la Marseillaise qu'avait acheté Gainsbourg. C'est plus pour le fait que ça appartienne à Gainsbourg que le fait que ce soit la Marseillaise. Enfin, il y a un télescopage d'informations qui est assez intéressant, avec l'homme à la tête de chou qui suit, Coluche, qui est Coluche, ils l'ont situé comme figure d'Harakiri. C'est pas la plus contre-culturelle des figures d'Harakiri, mais c'est une façon de montrer que dans la culture française, il y a des germes de quelque chose qui était de l'ordre de la subversion, quoi. Bon, Coluche a été admis, mais c'était pas évident au départ, quoi.
On pourrait parler du pop. Le pop commence dans les années 50 et là, c'est un pop qui est très assimilé. Et il faut entendre, c'est un pop deuxième génération, c'est-à-dire que c'est un pop qui est, par exemple, lié à la presse, qui est lié à la diffusion, qui sort de l'aspect oratique de l'œuvre, qui sort de... C'est assez amusant parce que Maison Rouge était aussi identifié à la notion de collection privée, à un endroit qui est un endroit privé, qui est géré par des intérêts privés, par une personne qui existe, qui expose en fait d'autres collectionneurs. C'était une confrontation entre collectionneurs. C'est une guerre des égos de collectionneurs Maison Rouge. Et cette exposition a très peu à voir avec la collection, bien qu'on puisse faire du fétichisme absolument sur tout. Mais elle est franchement populaire dans ce sens-là. Alors, on peut discuter chaque génération, parce que c'est très très lourd la présence des 68 arts dans la société française. Et c'est amusant parce qu'on pourrait mettre au centre, par exemple, Libération, tout le développement de Libération. Et moi, qui avait 20 ans en 68, qui suis donc un 68ard, c'est la chose qui m'a le plus intéressé, avec tout à fait spontanément, c'était Bazooka, par exemple. Et donc, c'était lié aussi au lieu d'intervention de Bazooka. Et ce matin, je pensais dans le bus à Bazooka, les légendes Kiki, tout ça, qui s'étaient attachés avec des menottes dans les escaliers de l'humanité pour faire payer leur dessin, enfin, c'est-à-dire leur pige. Et pour moi, c'était formidable. Ça c'était très très bien, c'était... Enfin, je m'identifiais totalement à eux, alors qu'ils étaient plus jeunes que moi, mais j'avais moi-même fait des choses comme ça précédemment, ou en même temps qu'eux. Et c'est cette espèce de... C'est assez beau, Bazooka, par exemple, comme c'est cette espèce de... d'expression désespérée arrive à prendre forme. Il y a un cri, quoi, qui vient vraiment, au sens d'Artaud, qui vient à l'intérieur de ces sociétés. Il y a des... un énorme désarroi qui se manifeste. Et je me souviens, on vivait encore... enfin, je dis, moi et un certain nombre d'autres gens, on ne vivait encore pas à Paris. Et on a tout de suite aimé, par exemple, le personnage qui faisait référence à la télé d'Olivia Clavel, des choses comme ça. Leur publication formidable, un peu grand format. Enfin, c'était quelque chose qui existait. Et petit à petit, on s'est lié avec les autres. Enfin, tu vois comment ça marche, quoi.
Mais les commissaires, eux, quand je les ai rencontrés, ils voyaient Bazooka comme un groupe en rupture. Et c'est ce qui les intéressait. Et en discutant, moi, je leur disais que j'étais venu à Bazooka via Harakiri. C'est dans les pages d'Harakiri que j'ai découvert Bazooka. Après, bien sûr, puisque quand j'étais jeune, je ne lisais pas Harakiri. Ou, enfin, je l'ai vu apparaître quand j'étais petit, mais j'assimilais ça presque à... Enfin, c'était une revue... interdite, presque porno pour un gamin de 8 ou 9 ans. Mais c'est quand même dans les pages d'Harakiri que j'ai découvert Bazooka. Et puis, je leur raconte que Bazooka, avant d'être Bazooka, en fait, c'est... Certes, il y a un côté contre-culture, parce qu'il y a une rupture esthétique. Ils cherchaient une nouvelle esthétique, et puis à assimiler dans leurs images, à réunir des inspirations qui sont en principe très diverses. Mais il y avait autant de références à l'art contemporain de leur époque, à l'illustration, la bande dessinée. Eux voulaient faire de la bande dessinée au départ. Enfin, c'est sur ce terrain-là qu'ils voulaient être actifs. Et puis, assez vite, ils ont propagé leur force de frappe esthétique à différents types d'imagerie, quoi. Donc, pour dire quoi ? Bah oui, que Bazooka, finalement, c'est pas une contre-culture. Je dirais que c'est un contre-pouvoir. Parce que ils sont pas contre la culture, ils l'assimilent au contraire. Quoi. Il y a aussi la culture Eric Losfeld, Pauvert, Kiki était fan, enfin et tous d'ailleurs, ils étaient fans de toutes ces publications que pouvaient lancer Pauvert et Losfeld.
Si on voit bien, par exemple, Pellart, on voit bien la continuité, et il est évident qu'il n'y a sans Harakiri, pas de Bazooka, et surtout les modes de diffusion, quoi. C'est comme des gens qui sont Beaux-Arts de Paris, qui squattent une salle, qui vont avoir des UV parce qu'ils font chauffer des boîtes de sardines sur le poêle, qui montent une collectivité, qui ont des modèles de collectivité qui existent déjà, et puis qui impriment, quoi, qui n'ont pas du tout le sens de l'œuvre unique, et ça donne une dimension formidable. Tout de suite, il commence comme ça. Et donc, j'ai vu, puisqu'on peut tout mélanger, j'ai vu dans ton analyse de Topor, je ne sais plus si c'est dans le catalogue ou dans... Enfin, c'est dans le catalogue de l'exposition à la BNF, que, comme Topor vire artiste, les gens de Harakiri l'aiment de moins en moins et vont plus ou moins le rejeter. Et si on est autour de toute cette problématique. J'ai oublié de parler de l'aspect musical. Là, il y a une salle sur les Berruriers Noirs à Maison Rouge. C'est important, tout ça est lié. Ces gens vont se lier, vont faire des choses ensemble. Comme Asger Jørn et Dubuffet, par exemple, pour la génération précédente, on a un esprit collectif, une dimension à la fois populaire et une dimension collective qui, pour moi, est absolument fondamentale. Oui. Et, par exemple, Topor a en même temps un blues terrifiant qui le fait rester très solitaire au milieu de tout ça. Enfin, c'est l'impression que j'ai après coup. Il est quand même... il veut être lui, envers et contre tous, à la fois au niveau du trait, de la façon d'aborder à peu près tout, en fait.
Oui, il y a un point commun, je dirais, entre Topor et Bazooka, c'était, et d'autres artistes aussi, c'est l'idée que, en voulant faire un art non élitiste, on utilise tous les supports de diffusion des images. Donc Topor et les gens d'Harakiri, d'une certaine façon, disons, à Harakiri, la plupart des dessinateurs se considéraient comme journalistes parce qu'ils étaient dans un journal, parce qu'ils faisaient des journaux. Topor, lui, se considérait comme artiste, mais pas comme artiste de galerie uniquement, parce qu'il est exposé aussi en galerie, mais comme un artiste de presse, comme un artiste de télé, comme un artiste partout. Il était partout artiste, Topor, comme les gens de Bazooka. Et là, il y a une revendication, je dirais, de casser les hiérarchies habituelles entre le réseau des galeries, le réseau du marché, et puis le réseau de diffusion lié à la reproduction et à l'édition. Que tous ces artistes-là ont revendiqué de concert. Et les gens d'Harakiri, enfin, notamment Loulou Picasso et Lulu Larsen, avant de créer le journal Harakiri, travaillaient sur les spectacles notamment sur un spectacle que Guénolé Azertiop avait mis en scène dans un festival Sigma à Bordeaux, qui était un spectacle de Topor qui s'appelait Monopolis et qui était une succession de salles sur la torture où on montrait au public des images de torture et où on le malmenait. Et d'ailleurs, il devait signer une décharge au début de ce labyrinthe d'expression de la torture. Et puis, ils étaient malmenés pendant tout ce voyage dans l'exposition. Et ils finissaient par se faire jeter dans un tas d'ordures. Donc, c'était vraiment une façon d'ironiser sur comment on considère le public. Et puis, sur ce qu'il est capable de recevoir comme image.
Oui, on peut dire... Et après, il y a des réussites individuelles, mais on peut parler de marche, en fait, d'une survie, de la marginalité. Je pense à ça sur Azertiop, par exemple. On vient de m'envoyer un mail sur Azertiop dans une autre problématique. Une ancienne de Grapus, avec qui j'ai travaillé après, tout ça est lié, par exemple, le truc de Grapus. Donc, on a la constitution d'une marche. Donc, Grapus, c'est-à-dire Sislevich, c'est-à-dire un graphisme militant, c'est les gens qui vont faire... Et qui, après, ça va donner Ne pas plier, qui est très, très présent dans les manifestations. Tout le monde a vu Rêve Général, par exemple, tout le monde connaît ça. C'est toute une famille d'esprits qui se recoupe dans tous les sens. Et il y a aussi toujours cette idée d'imprimer, de publier, de faire des fanzines. Et c'est ce qu'apporte ton article. Je pense à Rouen, je me souviens du chanteur des Docks. À un moment donné, j'habitais à la place des Abbesses. Je voyais Patrick Hudlin, le chanteur des Docks, des gens comme ça. Et il y a les assassins qui sont arrivés, c'est-à-dire la nouvelle génération, les rappeurs fils de bonne famille. Mais c'est toujours cette idée de marche, quoi. C'est vraiment. Mais Topor sort de ça, et aussi Topor est plus que... Il fait des choix très cohérents et il va jusqu'au bout. Par exemple, quand il va faire une émission de télévision pour les enfants, ça sera vraiment une émission de télévision pour les enfants. On pourrait peut-être écouter, d'ailleurs, on fait des petites pauses musicales de temps en temps parce que je dois rappeler où on est et puis l'émission et le nom de mon invité. On va écouter une petite chanson de Topor, oui, merci Adrien.
Rue Saint-Denis, 10h du soir, c'est l'horloge des fins de semaine en rondognon sur les trottoirs. Les filles proposent leur abdomen, mais dans la foule, une silhouette poursuit son chemin obstiné. Comme dans la jungle à la machette, les Indiens taillent les sentiers. L'amputé cherche une putain pour qu'elle lui fasse un gros câlin, pour qu'elle le prenne entre ses bras, pour lui donner ce qu'il a pas. Mais elle réclame un supplément, alors il cherche de l'argent. Et comme il n'en a pas assez, faut bien qu'il aille voir à côté. C'est un géant au corps étrange, à la démarche chaloupée, un monstre dont la vue dérange. Tout le monde a peur de l'amputer. Rue Saint-Denis, 11h du soir, l'amputé va chercher des clopes au bar tabac près du boulevard. Mais en passant devant le sex shop, il voit une pancarte en vitrine, entrée interdite ou manchot. Alors il se paye une cabine pour la séance du pipi-chou.
Merci. Donc ça, c'était Pascal Dinca. Tu me reprends si je prononce mal.
Pascal Dinca.
voilà, qui chantait du Topor. Alors, ce qui est bien dans ton article dans le Catalogue de Maison Rouge, c'est que tu introduis un certain nombre d'autres chanteurs. Moi, j'ai aussi pensé à beaucoup d'autres choses en visitant l'exposition qui ne sont pas dans l'exposition, parce qu'il faut faire des choix, tout ça. Je pense en particulier au domaine de la musique. Hein. Je pensais à Sordide Sentimental, là, j'étais en train de parler de Rouen. Et donc, toi, tu parles. Je vois, là, je regarde au hasard, je vois Florence Sestac, par exemple. Donc, je pense à Charlie Schlingo, que j'ai vu hier dans un. Dans un film de 1997, quand il était encore vivant, tu parles de Capitaine Caverne, tu parles de Placide et Museau, enfin, tu parles de gens comme ça. Tu élargis un peu le champ, mais ça me paraît normal et le catalogue est bien pour ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces autres dessinateurs ?
Bah oui, oui, l'idée, là, c'était de situer Bazooka dans une histoire de l'art et des images. Moi, je suis historien d'art, donc c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que j'ai été sollicité. Donc, Bazooka, ça vient d'une certaine façon après Harakiri, Topor, enfin, très inspiré par cette culture-là. Pas uniquement, mais en grande partie inspiré par cette culture-là. Et puis, ça donne naissance. Après, il y a les gens qui réagissent à Bazooka, qui étaient aussi inspirés par Topor, etc. Mais Bazooka, il crée une déflagration, notamment pour sa contribution à Libération. Et tout à coup, le fait que Libération leur donne une tribune en créant un journal exclusivement d'images, c'est un coup, c'est inédit dans la presse. Je veux dire, personne. Mais d'une certaine façon, Harakiri a été ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ont créé un journal qui est une œuvre d'art en soi. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils réagissaient pas à l'actualité. Ils étaient libres de tous les codes habituels de la presse. Et chacun avait sa page ou ses pages. Et ils faisaient exactement ce qu'ils voulaient. Et un regard sur le monde ou un regard moderne, comme ça s'est appelé à partir du deuxième numéro, le journal des Bazookas, ça a été ça aussi. C'est une œuvre d'art en soi. Et eux réagissaient davantage à l'actualité, mais très, très librement. Et à partir de Bazooka, à partir de ce journal Un regard moderne, il y a eu un certain nombre de réactions d'autres artistes, et donc Captain Caverne, quoi. Enfin, il y a eu le groupe Blanc, c'était des étudiants aux Arts Déco dans lequel il y avait Kloski, Pierre Huyghe et compagnie, qui se sont mis à faire des gravzines de luxe, on va dire, mais où la revue devient un objet d'art en soi, quoi. Et en même temps. Pas cheap, mais disons très accessible, quoi.
C'était vraiment une époque de revue formidable. Oui, c'était mûr, quoi. Puis après, il y a eu cette explosion punk. Mais en France, il n'y a pas eu vraiment le côté cheap photocopie. C'était tout de suite bien parce qu'il y avait une culture de l'imprimé. Et alors, je pense à Capitaine Caverne qui fait des dessins plutôt psychédéliques. Mais il y a des gens comme Museau, Museau a fait un livre pour enfants que j'aime beaucoup. C'est des petits livres carrés, c'est Malerin Édition. Et tous ces livres carrés sont encore dans un esprit Harakiri d'une certaine façon. Enfin, il y a une autonomie du dessin dans le livre de Museau. Il n'y a pas de parole. C'est une histoire avec une tête, un ballon de football, des choses comme ça. Mais puis, il y a plein d'exemples, bien sûr. Mais même s'il y a des paroles, mais de type tarte à la mouche, rien que ces mots-là, ça fait déjà bizarre, tarte à la mouche, puis on est content, puis ces livres, c'est un enchantement, c'est des petits livres carrés, lavables, qu'on peut pas noyer, enfin, c'est des objets formidables. Il y a une histoire, quoi, et donc on peut se concentrer sur Topor, et je vais commencer par lire une petite poésie de Topor, où il raconte sa vie. Je suis né à l'hôpital Saint-Louis, proche du canal Saint-Martin, en 38. Aussitôt, j'ai pris la fuite, avec tous les flics aux fesses, allemands, nazis, SS. Les Français, cousins germains, leur donnaient un coup de main, en l'honneur du maréchal pour la solution finale. Bref, je me suis retrouvé en Savoie, chez les Suavés, caché près de Saint-Offange, en attendant que ça change. Je n'avais qu'un seul souci, celui de rester en vie. Après la libération, j'avais encore l'obsession d'arriver jusqu'à 10 ans. Ensuite, il serait bien temps de réclamer un peu plus si j'échappais au virus. Cette période historique m'a insufflé la panique. J'ai conservé le dégoût de la foule, des gourous, de l'ennui et du sacré, de la poésie sucrée, des moisis, des pisses froids, de l'univers à l'étroit, des collabos, des fascistes, des musulmans intégristes, de tous ceux dont l'idéal nie ma nature animale. À se nourrir de sornettes, on devient pire que bête. Je veux que mon existence soit une suprême offense aux vautours qui s'impatientent depuis les années 40 en illustrant sans complexe le sang, la merde et le sexe. c'est magnifique. Et ouais, vas-y.
Donc pardon. Ce poème-là, on l'a mis en introduction de l'exposition parce qu'elle donne un peu le ton quand même. Souvent dans les expositions, notamment celles que j'ai faites de Topor chez Spoerry en Autriche ou en Pologne, certaines personnes, un peu collectionneurs bourgeois, etc., me pose la question, mais pourquoi est-ce que vous intéressez à Topor qui fait dans la trivialité? Et justement, c'est parce qu'il fait dans la trivialité, mais c'est pas de la trivialité. D'ailleurs, c'est les grandes questions humaines. C'est qu'est-ce qu'on fait de notre corps? Comment on a une représentation dès la naissance? Enfin, on est éduqué à penser que le cerveau dirige le corps et que tout ce qui échapperait au contrôle de la raison ne serait pas valable. Or, Topor démontre l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'est pas contre le raisonnement, mais il montre que la raison ne peut pas être un gouvernement totalitaire sur le reste du corps, et que quand j'ai mal au doigt, mon doigt prend d'une certaine façon le contrôle sur le reste de mon corps, et il a besoin d'attention aussi. Et il joue avec ça, Topor joue beaucoup avec le corps, et il joue à l'intérieur du corps le principe d'organisation et d'ordre. Et c'est pour ça qu'il s'amuse souvent à intervertir les fonctions. C'est que la main n'a pas qu'une fonction, n'est pas qu'une obéissance au cerveau, comme le sexe, comme il le montre dans le film Sad, qui est présenté dans l'expo Contre-culture à la Maison Rouge, et qui est évoqué aussi dans l'expo à la BNF. Et il montre comment, à l'intérieur de sa cellule, le marquis de Sade, qui a créé un petit théâtre en bois pour son sexe, où il lui fait jouer des rôles comme ça, le sexe s'appelle Colin, il a une petite tête, etc. Il joue son rôle de sexe, et puis à un moment, il prend le contrôle sur la raison du marquis, et puis s'ensuit un dialogue entre la raison et le sexe, et puis on voit que de temps en temps, la raison prend le dessus, enfin, ou l'imagination motivée par le sexe. Et donc il montre ça, quoi. C'est ça beaucoup qui l'intéresse, quoi. Après, ce poème là raconte aussi, enfin évoque l'enfance de Topor, qui naît en 38
de parents juifs
polonais. C'est tout de suite pris de plein fouet les problèmes liés à l'inquisition, enfin son père ayant été emprisonné à Pithiviers et s'étant échappé, a dû se cacher ensuite et est revenu à Paris, s'est caché. Et donc c'est là que tous les flics leur courent aux fesses, et que les gens du voisinage, notamment la propriétaire de leur appartement qui vit dans le même immeuble qu'eux, passent les enfants Topor tous les jours à la question en essayant d'obtenir d'eux des informations pour trouver leur père. Et du coup, Topor, très tôt, est contraint et encouragé par sa mère à mentir. Non, vous n'avez pas vu votre père. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'à partir de 4 ans, Topor sait mentir, quoi. Sa sœur, qui était un peu plus âgée, nous a raconté qu'il était assez brillant dans l'exercice du mensonge. Et sans doute que cette nécessité de l'imagination vient à ce moment-là, quoi. Contraint, et finalement... Après, quand il dira que la réalité qu'il lui donne de l'asthme, comme Cioran, il reprend l'aphorisme de Cioran, et qu'on a mis dans l'expo une citation où il dit que merde, je me souviens plus ce qu'il dit, mais enfin en gros que les créations imaginaires adoucissent l'amertume du réel. Ben, c'est ça que ça veut dire, c'est que finalement la réalité est déplorable et qu'il faut trouver un moyen d'y échapper coûte que coûte, et dans son cas c'est évident.
Et il fait un coup de force, alors ça c'est aussi très abusant et c'est rendu très très lisible par l'exposition. Pour être d'avant-garde, il utilise des moyens très archaïques. Et donc il va effectivement prendre des modèles qui sont toujours datés, qui sont anciens. Il va vieillir, par exemple, une formule à la Chaplin, c'est-à-dire qu'il va prendre, on peut penser à Tati, qui fait exactement l'inverse, il prend Chaplin et il le vieillit encore dans l'approche, c'est-à-dire qu'il le réduit à quelque chose qui ressemble à un signe typo, comme la main qu'on a en typo sur les affiches dadaïstes. Et il va, pour des raisons... d'esthétique, imiter des techniques anciennes qu'il n'utilise pas. Par exemple, il va reprendre le croisillon de la gravure alors qu'il fait du dessin de presse et qu'il fait du dessin au trait. Il va Et je pense qu'il, et c'est très évident, il cherche à être très personnel, il cherche des moyens, mais enfin, ça, c'est toujours pas clair pour moi, ce recours à des moyens anciens pour s'exprimer, cette façon. Par exemple, si je me souviens de ma découverte et de ma lecture de Charlie Hebdo, donc post-68, plus tard, après le grand drame tragique à mort à Colombey, ce que dont je me souviens, c'est des dessinateurs qui dessinent extrêmement léger en aérant la page au maximum. Je peux prendre l'exemple de Reiser ou les deux personnages de Wolinski qui font du strip et qui font du strip où ils jettent un maximum de choses pour en garder un minimum. C'est-à-dire que après, je vais fréquenter des étudiants de Beaux-Arts qui vont m'introduire à Hugo Pratt au tournant des années 70, les premières traductions d'Hugo Pratt. On va retrouver une approche un peu plus sophistiquée du dessin, mais qui reste quand même, qui joue beaucoup sur les blancs, qui fait des images très, très aérées. Et chez Topor, c'est plein, c'est rempli, c'est comme une boîte, comme ça, où on met des choses, on obscurcit la page, on fait encore des cadres, c'est redondant, hein, toi.
Bah justement, là, pour éclaircir un peu ta pensée là sur cet anachronisme du dessin de Topor, je pense que, bon, d'une part, il commence, à la base, il fait des études aux Beaux-Arts pour être peintre. Donc les premiers travaux de Topor, enfant et adolescent, ce sont des travaux de peinture jusqu'aux Beaux-Arts où, après la première année, finalement, il s'éloigne de la peinture. Et en découvrant le petit livre de ciné « Complainte sans parole » que publie Jean-Jacques Pauvert, il tombe amoureux de ce type d'expression, quoi. Ciné lui-même étant marqué par Steinberg, le dessinateur américain.
C'est vraiment l'exemple de... Aussi, c'est un des ces dessinateurs que mes copains des Beaux-Arts vont me présenter comme étant une intelligence du trait, tu vois, comment c'est une page vite, en fait, Steinberg. Enfin, c'est le trait continu, on voit bien, mais c'est jamais la trame.
Non, alors il y a différentes choses chez Steinberg et que reprend Ciné dans ce petit livre Complainte sans parole. C'est d'une part, il y a le dessin, et d'autre part, il y a le télescopage avec des formes déjà existantes, comme le coup de tampon, le signe typographique,
les signes, oui.
le collage. Et la couverture de ce livre « Complainte sans parole » représente un petit personnage de Ciné qui a sur la tête un chapeau melon qui n'est pas dessiné par Ciné, qui est collé, qui est repris d'un magazine, enfin d'une revue populaire. Et c'est aussi la culture de Topor. Quand il était enfant, il lisait le journal des voyages, etc. Donc quelque chose qui était même plus loin que son enfance à lui, qui n'était pas contemporain. Puisque ça datait des années 20, enfin 10-20, et donc il a découvert les grands illustrateurs du début du siècle, enfant. Et ça l'a marqué, il a construit son imaginaire là-dessus, quoi. Et ensuite, quand il voit que Ciné joue avec cette matière de gravure ancienne, je pense qu'il y a un déclic, et puis là, hop, il se dit, il faut moi aussi que je crée un personnage identifiable, et puis il crée ce personnage au chapeau melon, qui est une inspiration de Ciné. Alors après, il y a Charlie Chaplin, Fats Waller, Magritte peut-être, mais je pense même qu'à ce moment-là, il connaît pas encore bien le dessin de Magritte, Topor, quoi. Et pourtant, Magritte publie aussi des dessins dans la revue de Pauvert Bizarre, que Topor découvre quasiment très peu de temps après. Et puis c'est là qu'il présente ses premiers dessins à la revue Bizarre, et qui publie son premier dessin.
On pourrait exprimer ça de la même façon, c'est que il est un modèle de dessinateur surréaliste, alors qu'on identifie, enfin moi, les avant-gardes au dadaïsme, c'est-à-dire un rapport totalement différent aux formes et aux dessins, à quelque chose qui swing beaucoup plus, qui articule la page, où on met la composition en avant contre le remplissage, si tu veux, on est contre l'illustration, et Topor va faire beaucoup d'illustrations. Et comme le temps passe, on voudrait juste peut-être imaginer qu'on a des auditeurs qui savent à peine qui c'est Topor, certains, et parler comme de la variété de ses occupations qui est extraordinaire, et sa capacité de travail, le nombre de choses qu'il a fait, parce qu'il aborde des domaines qui sont extrêmement, enfin, ils sont complémentaires, mais qui sont quand même assez différents dans l'approche, en tout cas au point de vue du travail. Et il va toujours très à fond dans tout ce qu'il fait, hein. Ce qui m'a impressionné, j'ai été à la visite de presse, quand quelqu'un a dit, toi peut-être, que Miyazaki reconnaissait une dette vis-à-vis de Topor. Ça me touche beaucoup, je trouve ça extraordinaire.
Oui, bah c'est ça. Enfin, Miyazaki, pour le dessin animé La Planète Sauvage, qui a... qui a marqué non seulement une génération, mais aussi plusieurs générations qui ont suivi de dessinateurs de films d'animation en France et à l'étranger. La Planète Sauvage, c'est un chef-d'œuvre. Et ce qui est marrant, c'est que là encore, c'est une œuvre que beaucoup de gens connaissent sans forcément en attribuer la paternité à Topor, comme Téléchat, comme les affiches pour le tambour, comme les affiches d'Arakiri, etc. C'est qu'il y a des images de Topor qui sont connues, qui ont touché les gens, et on ne sait pas forcément que c'est Topor qui les a produites. Après, le génie de Topor, c'est à la fois un génie du dessin, parce que c'est un très bon dessinateur. Il est capable de montrer une virtuosité du dessin, une capacité à assimiler une histoire du dessin, à rejouer dans un dessin tous les mouvements graphiques depuis la préhistoire, donc une connaissance et une émotion du dessin. Et en même temps, des idées qui sont chocs à chaque fois. Donc parfois, il peut faire des dessins qui sont moins beaux au niveau du traitement, mais qui restent très percutants. Et le fait même qu'ils soient moins beaux ajoute quelque chose à la répulsion voulue que doit provoquer l'idée. Mais la force aussi de l'artiste Topor dans sa globalité, c'est qu'il est dessinateur et aussi écrivain. Il manie plusieurs langages. Et pour en revenir, attends, je voulais juste faire une parenthèse sur l'anachronisme de ses dessins. C'est un terme que j'ai beaucoup utilisé avant de m'interroger vraiment sur le mot lui-même. Et l'anachronisme, finalement, je me suis rendu compte que pour Topor, c'était peut-être une façon de créer l'idée d'une anarchie temporelle, c'est-à-dire qu'il contredit, il est en opposition avec le présent, en ne se soumettant pas à une ligne du présent, à une mode. Il télescope, et en même temps, ce jeu de l'anachronisme, c'est-à-dire d'un anarchisme chronique, on va dire, c'est de jouer aussi sur une mémoire collective, un inconscient collectif.
Je comprends ce que tu dis, on peut faire image. Je connais un type qui s'appelle Bohin, je ne me souviens plus de son prénom, Jean-Claude Bohin, qui signe, il fait une espèce d'art brut, il dessine que sur des sacs en craft dans lesquels on met les légumes, et il habite à Marseille. Il était au Beaux-Arts de Marseille avec Viala, donc un de ses grands supports surface qui fait des cacahuètes, qui a eu une grande exposition une fois à Beaubourg. Et lui, il faisait des grenouilles hyper réalistes au bord des mares pour faire chier tout le monde. Et donc, il affirmait sa personnalité. Et c'est vrai que ce que tu dis, par exemple, par rapport même à la modernité du Burois, pour prendre quelque chose qu'il aimait beaucoup, je sais pas, les illustrations de Jarry ou un tas de choses comme ça, c'est vrai qu'il marque très fort sa place, et c'est vrai de tous les domaines qu'il aborde à ce moment-là. Hein, Le locataire chimérique, le film de Polanski qui est magnifique, c'est chaque fois très particulier. Ouais.
Alors, Le locataire chimérique, c'est le roman qu'écrit Topor en 64. Et qui sera publié par Buchet-Chastel, après avoir été refusé par plusieurs éditeurs. C'était Gallimard et Buchet-Chastel qui étaient OK pour le publier. Finalement, c'est Buchet-Chastel qui l'a emporté. Et Le locataire chimérique est devenu, donc écrit en 64, publié en 64, est devenu Le locataire, adapté par Polanski en 76. Mais en réalité, dès 58, où Topor publie son premier dessin, il envoie aussi à des revues ses premières nouvelles. La première est publiée en 60, mais il l'avait envoyée quasiment en même temps que ses premiers dessins. Et la première nouvelle de Topor s'appelle L'amour fou, donc il pique le titre à Breton. Donc il y a déjà l'idée d'un pied de nez. Et évidemment, Topor était fan du surréalisme depuis le lycée. Il avait découvert Alfred Jarry il y a 15 ans, et ça lui a ouvert comme ça tout un pan de culture. Et après, il s'est mis à acheter des bouquins chez les bouquinistes, à se renseigner sur le surréalisme, aussi le situationnisme. C'était sa culture, le surréalisme. Après, donc il fait ce pied de nez à Breton en 60 en publiant sa première nouvelle. Et puis en 62, après avoir rencontré Arabal en 61, Arabal, qui fréquentait le groupe surréaliste, amène Topor à la promenade de Vénus, qui était le café où se retrouvaient les surréalistes avec André Breton. Et Topor, qui sans doute comme n'importe quel jeune artiste vivait un rêve en se rendant à cette réunion, reste 5 minutes et se barre, ne supportant pas André Breton pontifiant sur un sujet ou un autre. Il s'y retrouve pas du tout et il est allergique à Breton, et puis il s'en va. Sans doute, il avait aimé le Breton écrivain, mais la personnalité lui déplaît. Puis Breton est vieillissant. Enfin bon, il a besoin d'autre chose, quoi. Donc, immédiatement derrière, il propose à ses amis de créer un mouvement qui soit un pied de nez au surréalisme, un mouvement non dogmatique, où tout le monde pourrait se revendiquer de ce mouvement. Un premier nom est proposé, Burlesque, et puis finalement un second par Jodorowsky, et qui ce sera Panique. Panique en hommage au dieu Pan et à l'idée de totalité, Pan étant le préfixe de tout. Et donc l'idée de ces artistes, c'est qu'ils revendiquaient une surface d'inspiration et de création multiple, englobant la totalité. Quoi.
Moi, je retire tout à fait ce que j'ai dit avant. C'était stupide, parce que tous les gens de Panique sont post-surréalistes, enfin sont des surréalistes. Des surréalistes qui ajoutent une dimension de mauvais goût, d'agressivité, ou des viscosités locales, genre l'Amérique du Sud, donc des surréalistes baroques. Et moi, je me souviens d'avoir lu donc le premier livre, je pensais que Serling qui l'avait publié, sur le manifeste du groupe Panique. Et il y avait des Chiliens, un club de football, ou un avion qui était tombé au Chili dans les montagnes, et ils s'étaient mangés entre eux. Et donc, il y avait soit Arabal, soit Jodorowsky, il disait se manger entre survivants, c'est Panique. Oui. Donc, c'était ce genre de provoque qui font très harakiri. Donc, on est vraiment toujours dans le même. Dans un univers, c'est la provocation, quoi.
Oui, Topor avait fait une nouvelle là-dessus qui s'appelle En Suisse et qui raconte l'histoire comme ça de rescapés d'un accident d'avion dans la montagne et puis ils n'ont rien à bouffer. Et puis, du coup, ils décident à un moment de choisir dans quelle jambe on va taper. Ils se mettent d'accord et puis, au fur et à mesure de l'histoire, ils se rendent compte qu'il y en a un qui mange tout seul sa jambe en Suisse, quoi. Ils disent.
Ouais. Ils ne partagent pas, ouais, c'est excellent.
Ils ne partagent pas sa jambe.
Et j'ai pas. Alors ça me fait penser à autre chose. Pour des raisons anecdotiques, je connaissais Michel Paré, qui était un ami d'adolescence de Topor. Et je pensais qu'ils étaient aux jeunesses communistes juives. Mais tu m'as dit que c'était pas des jeunesses communistes juives, mais que c'était des jeunesses communistes tout court. Je sais pas ce que c'était cette dimension juive que j'ai inventée. C'était à Belleville, là en haut. Et Topor et la politique, ça se passe comment? Il a toujours l'air aussi là d'être un petit peu. Légèrement à côté de ses camarades de jeu, quel qu'il soit, il veut pas s'embrigader. Enfin, tu sais, toi, je
ouais.
pense.
Bah, alors, Topor, justement, il était au lycée avec Michel Paré et Boris Cyrulnik, entre autres. Et ça, c'est Boris Cyrulnik qui nous le racontait, c'est que Topor, jeune, était déjà une petite autorité parmi ses camarades et qu'il avait une confiance en lui que les autres n'avaient pas. Ils avaient, surtout avec Boris Cyrulnik, ils avaient un passé commun d'enfants juifs et persécutés. Sauf que Boris Cyrulnik s'en est plus mal sorti, a perdu ses parents, et du coup était seul et vraiment dans la merde. Alors que Topor, lui, avait réussi à garder ses parents, et qu'il avait une relation avec son père qui était très forte. Et Boris Cyrulnik déduisait que de cette relation avait pu lui apporter une confiance en lui que les autres n'avaient pas. Après, je pense que les jeunesses communistes étaient aussi eux qui organisaient les colonies de vacances, etc. Donc pour des familles pauvres, c'était quand même un moyen de partir en vacances. Et ils sont partis en vacances ensemble. Et Cyrulnik racontait qu'ils s'étaient rapprochés parce qu'ils avaient notamment eu la même amoureuse dans ces colonies. Et sauf que Topor, lui, n'avait pas besoin de famille, de se rattacher à une famille de substitution, puisqu'il avait la sienne. Et du coup, avec une affection débordante, et aussi de sa sœur et de sa mère, et puis un encouragement dès la fin du lycée, où il rate le bac, il s'inscrit aux Beaux-Arts, et tout le monde l'encourage à être le génie qu'il sera, quoi. Et il le pressente, d'ailleurs.
Mais il fait toujours un petit peu le petit caractère. Alors, ça marche, la confiance en soi, parce que c'est très joli aussi, tout ce qu'on voit comme document sur le rapport avec son fils. Il y a une espèce de il ronronne dans la filiation. Enfin, c'est visible, c'est assez émouvant. C'est des rapports père-fils assez impressionnants. Enfin, selon l'histoire qu'on a soi-même, quoi. Mais Topor, quand il est dans l'idée internationale, se fait jeter par un dernier pendant la guerre d'Irak, la première, celle de 91. Parce qu'il il défend les États-Unis, en fait, contre Eder Valier, qui est toujours très fougueux, grande gueule à la Don Quichotte, et donc les Américains sont très, enfin. L'Idiot International est quand même un très vieux journal qui occupait des positions très radicales au début des années 70, qui était espèce de dans la provocation folle. Et Topor s'identifie pas à ça. Il s'identifie à Topor, en fait. Topor, ouais. C'est Topor. C'est un univers de référence à lui-même. C'est son, il est son propre branding, sa propre marque.
Ouais, je sais pas s'il défend les États-Unis ou si, en tout cas, il se met contre Eden Allier qui, lui, les carrément stigmatise quelque chose.
Mais tous les autres jouent le jeu. C'est GB qui dirige tous les dessinateurs, par exemple, qui sont dans le journal. Et il y a de très, très beaux dessins anti-américains, pratiquement aussi forts et aussi habités qu'au temps de la guerre du Vietnam, simplement. Ça n'a pas d'impact dans le public, cette première guerre du Golfe.
Ouais.
Passe au-dessus de la tête des gens, c'est sans importance. Il n'y a pas de morts occidentaux, on enterre des Arabes, tout le monde s'en fout. Enfin, c'est un truc bizarre, quoi.
Ouais, après, Topor, lui, ne prend pas position politiquement. Il dit qu'il est complètement naze. Au niveau des idées politiques, disons qu'il a une vision métaphysique de la politique. C'est un être politique, mais par contre, il n'est pas du tout partisan, quoi. Il se rapproche d'aucun parti. Et puis, quand il défend, entre guillemets, les États-Unis, il ne défend pas les États-Unis, il défend l'idée que lui a été bercé par la culture américaine, qu'il adore la culture américaine, enfin, en tout cas, certains aspects de cette culture, et qu'il y est plus sensible que la culture irakienne qu'il ne connaît pas, et qu'il dit qu'il préfère à choisir, il préférerait vivre à New York qu'à Beyrouth. C'est un pied de nez, évidemment, à Eden Allier, mais pour autant, je crois pas qu'il revendique non plus qu'il est totalement pro-américain, et je pense qu'en attendant quelques années, comme Pellart d'ailleurs, et il se rejoignait là-dessus, Pellart était un fan de culture américaine, complètement fanat lui pour le coup. Et en même temps, à la fin de sa vie, il était quand même très critique vis-à-vis de la politique que menaient les États-Unis dans le monde, quoi. Donc bon, être amoureux de la culture américaine, c'est pas forcément défendre ses choix politiques.
C'est une contradiction, quoi. C'est l'histoire du peuple. C'est une contradiction assez étrange. Dans le sens où il y avait cette ouverture populaire, c'est à travers le cinéma américain, la musique américaine. Enfin, c'est difficile de faire l'impasse sur le rock. Et c'est quand même la variété, c'est vision globale de ce que serait l'Amérique. L'Amérique, elle est aussi divisée que nous, entre nous. Il y a encore une question que je me pose aussi, c'est sur cette compulsion à travailler, à produire chez Topor, qui quand même prend des proportions hallucinantes par moment. Est-ce que c'est la peur de manquer? Comment toi tu vois cette compulsion à faire toutes ces choses? Il est acteur. Moi j'aimais bien ce personnage qu'il incarnait. On retrouve son personnage dessiné du début, une espèce de personnage burlesque. Il avait un rire qui est très connu, que tout le monde a entendu assez souvent. Et il avait l'air de jouer un personnage en fait, en vrai. Et il se laissait assez peu aller. Au-delà ou en deçà de ce personnage, il incarnait à sa façon un petit charlot comme ça, assez burlesque, et qui derrière ce rire il y avait quelque chose de peut-être de triste ou de grinçant. Mais quand même, c'est assez fascinant cette très très grosse productivité, par exemple au niveau de l'illustration de livres et tout.
Sur la productivité, je dirais que le père de Topor, Abraham Topor, lui était venu en France en 1930. D'une part parce qu'il avait eu une bourse et la possibilité d'avoir un passeport qu'il n'aurait jamais pu se payer en ayant un second prix de sculpture aux Beaux-Arts de Varsovie, où il était sculpteur. Et puis, il vient à Paris, sauf qu'en venant à Paris, il sait déjà qu'il ne refoutera pas les pieds en Pologne parce qu'il y a un climat antisémite qui est très présent et qu'en plus, il rêve de Paris et du Louvre et d'une vie d'artiste. Et puis finalement, une fois qu'il a dépensé sa bourse, il est contraint de travailler. Donc il reprend le métier familial de maroquinier. Il va travailler dans l'usine de capitonnage de sièges de train à Lunéville. Il fait venir sa fiancée de Pologne. Il se marie. Et puis, il s'installe comme maroquinier à Paris. Et puis leurs enfants naissent rapidement. D'abord Hélène Topor, qui deviendra une grande anthropologue et historienne de l'Afrique. Et puis Roland, 4 ans plus tard. Et le fait que le père ait donné une éducation artistique à ses enfants, puisqu'il les emmenait tous les dimanches au Louvre, et que c'était vraiment la liberté pour lui, quoi. Ce qui lui avait permis de quitter la Pologne, déjà de quitter un peu le giron familial, quoi. C'était sa liberté à lui. Donc il a transmis ça à ses enfants, et puis Roland l'a pris, je pense, vraiment au pied de la lettre, et s'est dit, il faut que je sois peintre, parce que Abraham Topor était devenu peintre pendant la guerre, il avait abandonné la sculpture, les peintures étant plus faciles à transporter dans leurs multiples pérégrinations pour échapper à la traque, il avait choisi de se mettre à la peinture. Et puis, donc, il peint dans ses temps libres, et Topor voulait être peintre. Et puis, je pense qu'assez rapidement, il s'est dit, il faut que je me fasse un nom, et me faire un nom comme peintre, ça va être trop long. Et tac, il voit qu'avec la presse, il va pouvoir tout de suite se confronter à un public et se faire un nom. Et après, à partir de ce moment-là, je pense qu'il cherche à publier le plus possible pour faire connaître son nom. Et en même temps, il explique dans un film à la fin de l'exposition que s'il produit autant, c'est qu'il est toujours en recherche d'alliés. Finalement, que ce soit le lecteur, l'éditeur, il crée une relation d'amitié, une relation intime avec énormément de gens. C'est assez étonnant. Et même avec le lecteur, et ça touche tout de suite l'intimité. Depuis l'enfance, moi, de Téléchat, Téléchat, ça m'a marqué pour ça, quoi. Ça a touché quelque chose d'intime en moi, plus que d'autres séries. Et puis la suite est du même tonneau, quoi. Et c'est un type qui était ultra angoissé. Et donc cette recherche d'alliés, c'était des remparts contre l'adversité du monde. C'était une façon de mettre une petite couche soyeuse ou un édredon entre lui et la réalité, quoi.
C'est marrant parce que c'est frustrant, on pourrait en parler pendant une semaine et c'est vraiment un très très bon sujet. J'ai oublié de dire que vous pouvez acheter un ticket commun pour aller voir les deux expositions. N'hésitez pas à aller voir Contre-culture et Topor, je pense que c'est très complémentaire, que c'est vraiment bien. Je voulais vous passer plein de petits bouts de LSD, la souris déglinguée, mais on n'aura pas le temps. Et je pense aussi, là, quand tu dis qu'il cherche des alliés, il y a un truc qui est très marrant dans la vie de Topor, c'est ce fort rapport qu'il a avec les Belges. Et c'est très exceptionnel pour un Français qui sont assez méprisants en général avec ces petits pays, les Suisses. Et ça me fait aussi penser avec Dubuffet qui s'était allié avec les Suisses et avec son arbre. Et les Suisses, une de leurs spécialités, c'est largement l'hôpital psychiatrique. Donc il y avait des ressources là-bas, mais et des hôpitaux psychiatriques très bien tenus. Il pouvait y avoir des archives et tout. Donc, mais il va faire de la télévision, de la radio. Il va faire vraiment beaucoup de choses avec ces Belges. J'ai l'impression qu'il commence aussi avec eux les histoires de costumes et il y a quelque chose qui lui plaît. On retrouve ça chez un type comme Jean-Baptiste Puy avec Le Poulpe, par exemple. C'est un type d'esprit, de provocation. On peut penser au Daily Bull, bien sûr. Mmh. Il est copain avec Alechinski. On pourrait parler de plein de choses, hein, parce qu'il y a l'atelier de gravure où il y a une Topor au début chez Brandes et puis Topor à la fin chez
Bramsen.
Bramsen. Ouais, je voyais bien, je disais quelque chose de fou. Bramsen. Et, enfin, il y a, ça va tout azimut et effectivement il va se mettre à faire des œuvres uniques pour pas perdre ses originaux quand il les envoie à la presse. Enfin, il y a un million de choses à dire. Je te laisse la conclusion. Il reste 8 minutes à toi.
Oui, c'est ça.
Sur le million de choses, tout ce qu'on a oublié.
Il y a l'éditrice. Il y a une éditrice en Allemagne qui a publié plusieurs livres de Topor, qui était son amie, qui s'appelle Gina Kayoff, qui m'avait dit de Topor quelque chose qui m'a marqué, que c'était un être cosmopolite. Et c'est vrai que Topor est comme ça, multiple, c'est un être unique et multiple à la fois. Et cette proximité avec les Belges, c'est vrai qu'on est étonné de cette relation avec la Belgique, mais on se rend compte dans le même temps qu'il en crée une avec les États-Unis aussi.
La Pologne,
l'Allemagne, l'Italie, la Suisse aussi. Et bon, alors sur la Belgique en particulier, il y a une explication de cette amitié de Topor avec la Belgique. Déjà, elle est culturelle. Il y a énormément de dessinateurs et de cultures graphiques que Topor a assimilé très tôt, qui vient de Belgique. Et ensuite, son premier ami et manager, entre guillemets, c'est Jacques Sternberg, qui est d'origine belge. Son premier éditeur, c'est Eric Losfeld, qui est d'origine belge. Et un de ses premiers amis à Paris, que Topor se fait à Paris, est Freddy Devray, qui est aussi très implanté dans les milieux d'avant-garde belge. André Blavier, qui écrit pour la revue Bizarre, qui est éditeur en Belgique. Et donc, il y a comme ça une nébuleuse belge à Paris. Et Topor est tout de suite intégré et reconnu par les Belges. Donc, dans ce mécanisme de se chercher des alliés et de créer des amitiés, bah, assez vite, le réseau belge est infiltré par Topor.
C'est marrant ce que tu dis, parce que bon, c'est un sujet que je connais bien, je suis belge, et j'ai habité en Suisse. Et donc, effectivement, Losfeld, Stenberg, des gens comme ça, et j'avais parlé de Kesserling avant, en fait, les gens des petits pays viennent ici et font vivre la marche. Et donc Topor s'identifie à cette marche et tient quand même une position en marche. Toujours, il a très peu de rapport avec l'officialité. Et ça me fait penser aussi, excuse-moi, sur sa frustration de peintre et de reconnaissance. La plus belle exposition de lui que j'ai vue de son vivant, elle était au Beaux-Arts de Paris et elle était magnifique. Et franchement, elle était émouvante et c'était une exposition qui était habitée. Je ne sais pas si c'est lui qui avait fait le commissariat, mais...
Bah, c'était Gina Kaïov, justement, qui s'occupait de cette exposition, d'abord en Allemagne, ensuite...
Ah ouais, elle venait d'Allemagne. Ouais. Mais c'était... par rapport à l'institution Beaux-Arts, cette présence-là, c'était bien. Ça avait son Chanel 4 en grand, ça en jetait, quoi. C'était...
Oui, bah c'est ça, c'est le pied de nez permanent, je dirais, Topor. Et un pied de nez est efficace si, en même temps, on a assimilé ce dont on se moque. Et Topor, c'est là qu'il est très fort, quoi. C'est que c'est pas le type qui fait de la provocation en se mettant en dehors de ce qu'il fait, il est dans ce qu'il fait et il pose des bombes de l'intérieur, quoi, je dirais. Et en même temps, c'est un dessin qui est agressif, mais il est doux aussi. Je sais pas pourquoi, plus je les regarde et plus je trouve ça doux et rassurant. Finalement, il y a quelque chose de rassurant, c'est qu'il est, il se réconcilie avec ce qu'on a l'habitude de censurer en nous-mêmes.
Je sais pas si ça a de l'intérêt, mais moi, je vois pas du tout de provocation dans ce qu'il fait. Mais c'est lié, pour moi, il y a juste peut-être la bite avec qui parle avec le Marquis de Sade garde une certaine efficacité graphique. C'est quand même un objet, c'est un bout du corps qui garde un pouvoir de transgression assez grand. Mais pour moi, c'est pas du tout transgressif, mais c'est uniquement lié à sa façon de dessiner. C'est son rapport au trait, pour moi, l'empêche de passer à la transgression. C'est aussi simple que ça. Il n'y a qu'à penser à une couverture premier degré de Wolinski ou de Reiser sur Charlie pour comprendre ce que je dis. C'est-à-dire que c'est ça qui fait passer le message. Et chez Topor, le message passe pas parce que c'est le dessin qui se met en avant.
Oui, il y a une recherche esthétique. Oui,
c'est l'esthétique est trop forte et c'est vrai que son surmoi d'artiste est très fort. Et par exemple, cette image qui est déclinée dans tous les formats et dans tous les sur un certain nombre de supports du visage qui rentre à l'intérieur, je vois pas l'effet cri, alors que je pourrais citer très facilement, en commençant par le cri de Munch, je pourrais citer beaucoup de dessins qui crient. Et pour moi, ça crie pas, c'est étouffé. C'est étouffé. Mais c'est intéressant, hein, c'est autre chose, quoi.
Mais il montre, je pense que c'est ça qui montre souvent cette difficulté du cri, justement, du cri qu'on essaye comme un mauvais rêve où on essaye de se battre et puis les coups ne portent pas. Et il montre le coup qui ne porte pas. Mais du coup, c'est violent parce qu'il y a un coup. Mais c'est vrai que c'est un coup qui souvent ne porte pas, quoi.
Pour le dire crûment et pour rester dans la provocation, je le trouve BCBG. Et par exemple, je trouve que Téléchat, c'est assez anglais comme esthétique, dans le sens de ce côté un petit peu précieux qu'ont les Anglais quand ils prennent le thé, c'est assez...
Oui, il y a un dandysme chez Topor, c'est évident.
Et Adrien, en fait, on doit laisser la place à Manon à 10h. Si elle fait son flash, elle fait son flash à 10h. Donc on ne peut pas déborder. On va avoir bientôt le générique de fin, il nous reste une minute. Salut Manon, bientôt nous allons avoir un autre flash d'actualité. LYFM vit de plus en plus rapidement au rythme du 20e siècle. Écoute, Alex, j'étais très content de te voir. Il y a plein de choses qu'on aura encore pu dire sur Topor. La seule chose qu'on va retenir, c'est qu'on vous conseille vivement à tous d'aller voir l'exposition Contre-Culture et l'exposition Topor à la BNF. Et j'ai vraiment l'impression que cette émission s'est passée en 5 minutes. C'était formidable. Merci à toi d'être venu.
Merci.
Et re-salut, Manon.